Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Puisque voici Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1.
Majoritairement, nous avons des effets qui sont non graves. De la fièvre, des maux de tête, des courbatures, tous ces signes bénins comme on a avec d'autres vaccins.
L'agence du médicament veut rassurer les Français. Les effets secondaires du vaccin sont très faibles. Depuis la fin décembre, 1 million de personnes ont déjà été vaccinées.
Il faut s'y préparer. Le gouvernement envisage de reconfiner le pays, peut-être dès le week-end prochain, mais les écoles devraient rester ouvertes.
Emmanuel Macron promet d'agir, de changer les lois. Le président de la République s'est adressé hier soir aux victimes d'inceste.
Enfin, une librairie entièrement dédiée aux personnes malvoyantes vient d'ouvrir à Paris. Les livres en grand caractère s'arrachent déjà.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'objectif de la fin du mois a donc été atteint avec quelques jours d'avance. 1 million de personnes ont déjà été vaccinées en France.
C'est le Premier ministre Jean Castex qui a annoncé ce chiffre hier. Et pour convaincre les Français les plus réticents, l'Agence nationale de sécurité du médicament est montée au créneau, Diane Berger.
Pour le moment, il n'y a pas de recul. Donc au niveau des effets secondaires, on ne sait pas très bien. On a vu qu'il y avait des gens qui mouraient quand même.
On l'a mis en circulation tellement rapidement, on n'a pas assez de recul. Donc moi, personnellement, je vais attendre.
Ces effets secondaires du vaccin qui inquiètent les Français, l'Agence nationale de sécurité du médicament les a recensés. Sur les près de 400 000 personnes vaccinées au moment de l'étude, 135 seulement ont souffert d'effets indésirables. C'est très peu, souligne le docteur Joël Mikalef, responsable du centre de pharmacovigilance de Marseille.
Majoritairement, nous avons des effets qui sont non graves. De la fièvre, des maux de tête, des courbatures, tous ces signes bénins comme on a avec d'autres vaccins.
En revanche, 22 cas plus graves ont été signalés et 9 personnes sont décédées dans les heures ou les jours qui ont suivi leur vaccination.
On a pu constater qu'il s'agissait de patients qui étaient très âgés, qui avaient de très très lourdes pathologies. Quand on décortique tout ça, on ne peut faire aucun lien entre la survenue de ce décès et la vaccination.
Ce premier bilan est donc positif, selon le docteur Mikalef, qui appelle à poursuivre la campagne vaccinale.
Les explications de Diane Berger. Et alors que la vaccination se poursuit d'un côté, les recommandations sur les gestes barrières s'accumulent de l'autre face aux variants. Il faut désormais se tenir à 2 mètres l'un et les uns des autres, porter si possible des masques chirurgicaux et se taire dans le métro.
Oui, c'est la dernière recommandation de l'Académie de médecine pour éviter de projeter des particules de virus. Qu'en pensent les usagers du métro ? Marion Gauthier s'est promené justement dans les lignes parisiennes.
Il y a plein de monde qui monte, on va voir si les gens ils parlent. Je trouve que bon, enfin quand je suis toute seule, je parle pas, mais on va pas juste se regarder dans les yeux si on est avec des amis et tout, à attendre que ça se passe. Après avec le masque, c'est quand même plus compliqué.
Bah c'est ça, on est obligé de crier et du coup on en fout partout.
Vous savez qu'on n'a plus le droit de téléphoner dans le métro ?
Je sais, c'est ma mère qui m'a appelé.
Et vous, du coup, vous le saviez ?
Je l'ai vu en story sur Instagram, mais je crois que c'était une blague, en fait.
Il nous reste déjà très peu de vie sociale, donc ça va un peu trop loin, je trouve. Au bout d'un moment, il n'y a plus de liberté, quoi.
On va aller voir de l'autre côté de la ligne si les gens ont un peu plus envie de se taire.
Ah oui, suivons les consignes.
Faut que j'arrête de vous parler ?
Oui, il faudrait qu'on s'arrête. Hein.
On se fait juste en signe pour dire au revoir dans ce cas-là.
Au revoir, tout bas, tout bas.
Des usagers du métro parisien rencontrés par Marion Gauthier. C'est donc une recommandation, hein, mais pas une interdiction formelle.
En effet. Et si dans les jours qui viennent, la prochaine étape, c'était le reconfinement ?
L'hypothèse paraît aujourd'hui inévitable. Selon le journal du dimanche, la décision pourrait même être actée mercredi pour une application dès le week-end prochain.
Oui, on se dirigeait vers un confinement allégé, à l'image de celui qu'on a connu à l'automne, avec les écoles ouvertes. C'est en tout cas le souhait du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, interviewé pour le JDD par David Revaud-Allonne.
Très clairement, sa volonté est de conserver l'ensemble de ses établissements scolaires ouverts. La situation, je le cite, permet la continuité scolaire, car l'école, explique-t-il, reste essentielle pour nos enfants. Il le répète, il préfère les modalités qui ont prévalu lors du confinement de novembre dernier, avec des établissements ouverts. Jean-Michel Blanquer avait déjà annoncé que les épreuves de spécialité qui étaient incluses dans le nouveau bac ou dans le bac version Blanquer, entre guillemets, eh bien, étaient abandonnées. En revanche, il le dit très clairement, nous maintenons en juin la fameuse épreuve du grand oral et, bien sûr, celle aussi classique de la philosophie.
David Revaud-Allonne, journaliste au JDD, on en saura plus donc dans le courant de la semaine. Le sort des commerces notamment est en jeu. Pour l'heure, ils sont ouverts avec des jauges réduites et la police veille au grain. Reportage au Forum des Halles à Paris de Justin Morin.
Les clients sont désormais habitués au marquage au sol. Devant les magasins, des files indiennes à peu près bien organisées. Mais l'affluence liée aux soldes oblige le brigadier Jeff à rappeler les règles simples.
Bonjour, mettez un petit peu de distance s'il vous plaît entre vous.
Avec son équipe, il patrouille pour s'assurer que les jauges d'entrée sont respectées.
L'arriérage, le gel à l'entrée.
Que les commerçants ont correctement organisé l'accueil des clients, comme lui confirme cet agent à l'entrée d'une grande enseigne.
On a une file d'attente de 17 personnes qu'on compte déjà dans la jauge. Donc l'entrée est là et chaque sortie, ils ont un compteur et ils nous communiquent et on travaille comme ça toute la journée.
Mais arrivé dans la boutique d'à côté...
Il y a du monde en effet et là, vous voyez, on a pris attache avec un magasin qui affiche une capacité de 34 personnes. À vue de nez, on était au-dessus, donc on leur a fait la réflexion. Maintenant, c'est compliqué. Eux, ils n'ont pas d'agent de sécurité. On leur a demandé de faire au mieux.
Pas de PV dressé, les policiers ont conscience des difficultés des commerçants. Le but, c'est surtout de les accompagner au mieux pour limiter le risque sanitaire, explique la commissaire Hélène Torel.
Globalement, tout est en place. Donc on reste dans le pédagogique, ce qu'on constate de façon générale, c'est qu'il y a un véritable effort de la part des commerçants.
La jauge maximum du centre commercial a été réduite quasiment par deux, passant de 20 000 à seulement 11 000 clients.
Un reportage signé Justin Morin. En matière de restrictions, je vous rappelle cette mesure qui entre en vigueur aujourd'hui. Si vous arrivez d'un pays européen, par bateau ou par avion, et que vous souhaitez entrer en France, il faudra présenter un test PCR négatif.
Et notez que le président du Conseil européen, Charles Michel, a choisi Europe 1 pour s'exprimer. Il est l'invité exceptionnel du grand rendez-vous tout à l'heure à 10h.
Et en Europe, s'il est bien un pays durement touché, c'est le Portugal qui fait face à une vague sans précédent. Le pays est confiné, les écoles sont fermées et pourtant, les Portugais, aujourd'hui, doivent élire leur président de la République.
De nombreux Portugais réclamaient un report de l'élection. On s'attend donc à une abstention record. Henri de Larguy.
La reprise de l'épidémie a été si rapide qu'il était, selon la Constitution, trop tard pour reporter ces élections. 9 millions de Portugais sont donc appelés aux urnes aujourd'hui. Parmi eux, Zero Chad Santos, furieux de devoir voter dans ces circonstances.
Vu que tout le monde est à la maison, il y a un confinement, je suis un petit peu fou. Demander aux gens d'aller voter. C'est clair que l'abstention va être importante.
60 à 70% de la population pourrait bouder les urnes et il faudra peut-être un second tour au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, grand favori des sondages, pour être réélu. Mais les Portugais n'ont pas la tête à cela, la situation n'a jamais été aussi grave et ce confinement est finalement accueilli avec soulagement par Francesca Castro, une habitante de Lisbonne.
C'est plus possible, on a très peur, les hôpitaux sont au bord de la rupture. Et on n'a pas envie de continuer à voir le nombre de morts que l'on a tous les jours. Donc non, on accepte ça sereinement. On le voulait depuis un moment d'ailleurs.
Malgré tout, cette Portugaise ira voter aujourd'hui. Pour ce scrutin, les autorités ont augmenté le nombre de collèges électoraux. Une journée de vote par anticipation a été organisée dimanche dernier et des urnes ont été installées dans les hôpitaux.
Henri de Laguéry, la force des témoignages a fait réagir le président de la République face au fléau de l'inceste. Emmanuel Macron a promis des mesures après la sortie du livre de Camille Kouchner et les témoignages qui ont suivi. Le chef de l'État s'est donc emparé du sujet. Il s'est adressé directement aux victimes en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux.
La parole partout en France se libère. Le silence construit par les criminels et les lâchetés successives enfin explose. Il explose grâce au courage. Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire. Puis ces derniers jours... Le courage de milliers d'autres témoignant de leur vie brisée, de leurs enfances volées. Ces témoignages, ces paroles, plus personne ne peut les ignorer. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit et vous ne serez plus jamais seuls.
Emmanuel Macron qui promet donc d'adapter le droit, de dépister les violences sexuelles à l'école, mais également d'aider à financer le soutien psychologique pour les enfants traumatisés. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte après le passage à tabac d'un adolescent de 15 ans en plein Paris. Plongé dans un coma artificiel, le jeune Youri a fini par se réveiller, mais il ne parle toujours pas, selon sa mère qui s'est exprimée sur Europe 1.
On ouvre la page des sports, Marguerite, et en football, Marseille dit adieu à ses rêves de Ligue 1.
Le club phocéen est désormais sixième du championnat après une troisième défaite d'affilée. C'était hier soir face à Monaco. Il y a les statistiques implacables et puis le constat, au contraire, toujours très optimiste du coach André Villas-Boas.
Il n'y a pas de crise parce qu'avec l'état d'esprit des joueurs, on était bien, on était focalisés, ils ont tous donné. Malheureusement, ça a tombé mal, évidemment. Parce que à chaque fois, on souffre beaucoup et ça nous quitte la confiance. Mais je pense qu'on va s'en sortir parce que l'attitude continue d'être là, le groupe est solide, le groupe veut. Mais oui, on a une moyenne de points faibles. On a 9 points moins que la saison dernière à ce moment-là. Ce sont des moments durs, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Par contre, sur l'objectif du club, il faut continuer à croire qu'à la fin de la saison, ça se peut jouer encore. On doit continuer à insister. On n'a pas le choix.
André Villas-Boas avec Jean-François Pérez, le coach marseillais qui est toujours sur la sellette avec son club. Et puis ce soir, on suivra 6 rencontres comptant pour cette 21e journée, dont Rennes-Lille à 17h et le derby Saint-Étienne-Lyon à 21h. Un mot de biathlon et le carton plein des Français hier. Victoire de Julien Simon sur la Mass Start d'Antol, c'est en Italie. Victoire également du relais masculin. Et puis il y aura de nouvelles chances de médailles tout à l'heure.
Sans public, évidemment. Sans public. C'est une première en France. Ça se passe dans le 5e arrondissement à Paris. Une librairie vient d'ouvrir ses portes et elle ne propose que des livres écrits en ce qu'on appelle les grands caractères.
Oui, c'est d'ailleurs le nom grand caractère de cette librairie à destination des personnes malvoyantes et de celles qui ont des problèmes de vue. La boutique est ouverte et c'est déjà un succès, Nicolas Caro.
Quand on entre dans la librairie des grands caractères, toutes les nouveautés littéraires sont là, simplement ce ne sont pas les mêmes couvertures et les livres sont bien plus épais. Pourtant, ils ne sont pas tellement plus lourds, le papier est très léger et quand on ouvre, on s'aperçoit que ce n'est pas juste écrit plus gros. Agnès Binstock, la libraire.
On a un papier qui a été choisi pour qu'il n'y ait pas de transparence, pour qu'il n'y ait pas de reflets, pour que ça n'éblouisse pas. La police de caractère, c'est une police qui est sobre, sans empattement, sans fioriture, on va dire. Ça a vraiment été pensé, hein. C'est pas au hasard.
La librairie première du genre en France a ouvert ses portes mercredi et le succès dépasse les espérances.
Depuis qu'on a ouvert, on a reçu énormément de personnes. Ça n'a pas désempli de personnes qui en fait découvraient même l'existence des livres à grand caractère. Et de personnes qui disaient « mais ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans que j'ai arrêté de lire ». C'est très émouvant même d'ailleurs, des personnes âgées comme des jeunes. Hein.
Alors évidemment, c'est une réédition particulière, il y a plus de papier et donc les livres sont un petit peu plus chers, comptez 2 à 3 euros de plus que l'édition classique.
Nicolas Caro.
Enfin, on s'en rend compte à chaque fois qu'on sort les poubelles et on produit tout de même beaucoup de déchets.
Et pour arrêter de remplir des sacs poubelles tous les jours, on vous propose une solution ce matin. Si vous avez un jardin, pourquoi ne pas y installer des poules? Elles mangent vos déchets et vous, vous assurez la survie de certaines espèces. Reportage dans le Nord de Maximilien Carlier.
Plumage noir, gris ou blanc, elles sont 600 dans ce hangar. Elles courent partout et cherchent une famille.
Vous avez la poule d'Ernie qui est assez sauvage.
Laura est en charge du programme Poule Régionale.
Ce sont des poules qui sont en voie de disparition et le fait de pouvoir participer à cette opération permet de préserver le patrimoine local, redorer ces races tant appréciées.
Autre intérêt, ces bêtes à plumes peuvent réduire considérablement vos poubelles. Chacune d'elles peut picorer jusqu'à 150 kg de déchets de cuisine par an.
Épluchures, restes de repas, on va les donner à manger aux poules. C'est des déchets qu'on ne mettra pas dans la poubelle d'ordures ménagères du coup.
La mère.
Pour ces raisons, Émilie a choisi d'adopter 2 poules pour 5 euros, Oli et Ola.
Ce sont les enfants qui ont trouvé les prénoms des poules. Et du coup, elles apprennent aussi à s'occuper d'un animal. Donc ça, c'est aussi un côté ludique et pédagogique. Voilà.
Et les participants s'engagent à garder leurs poules au moins 3 ans. Après, si elles ne pondent plus, rien n'empêche de les manger. Ça sera consommé local puisqu'elles viennent du jardin. Dans le Caudrésie, Maximilien Carlier, Europe 1.
Eh ouais, une bonne poule au pot, hein. C'est
j'ai
dimanche après tout. 2 poules, hein, jamais une. C'est psychologique, elle tient pas toute seule. Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre.